Nous sommes dans une série sur le petit épître de Tite et nous avons fait une introduction la dernière fois, l'épître de Tite, pour ceux qui ont une Bible semblable aux miennes, donc l'édition Louis II de Genève. Je vais vous dire la page. C'est la page 1200 dans vos Bibles de Genève. Donc c'est ici, nous allons lire les versets 5 à 9, et puis on va aller dans le livre des Actes et revenir dans Tite. Tite chapitre 1, et on va lire versets 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète, donc je c'est Paul l'apôtre. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Donc ça, c'est le texte qu'on va voir aujourd'hui. Mais je voudrais en premier tourner dans le livre des Actes au chapitre 14. Actes chapitre 14. Et c'est le verset 23 qui nous intéresse. Mais je vais lire le contexte. Verset 21 au verset 26. Actes chapitre 14, à partir du verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annonçant la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Alors, ce paragraphe donne un peu le modèle que Paul suivait en tant que missionnaire. Il commençait à la ville d'Antioche, qui lui avait recommandé à faire, donc envoyé pour faire sa mission. Il allait évangéliser de ville en ville, et à la fin, chaque fois, il revenait à Antioche. Il racontait ce qui s'est passé dans sa mission, et puis, à un certain moment, ils sont retournés faire une autre mission. Ils reviennent à Antioche, et après, ils refont une autre mission pour revenir à Antioche. Et la chose qui est intéressante, c'est en revenant, autant que possible, ils repassaient par les églises qu'ils avaient fondées. Donc, à imaginer que Paul, il passe par l'église, par une ville, ils évangélisent, les chrétiens sont tous heureux, on est sauvés, etc. Ils se réunissent ensemble, et puis ils disent, ah oui, Paul nous enseigne ceci, cela, il parle de ça. Et puis, Paul va dans la prochaine ville, il évangélise, et puis les chrétiens sont laissés derrière là, etc. Et puis, par la suite, Paul va passer, donc je ne sais pas exactement combien de temps est passé. Mais Paul, il fait un effort pour passer, revoir les chrétiens, pour s'assurer qu'ils vont bien, pour les encourager. Et il dit au verset 23, il désignait des anciens dans chaque église. Ce n'était pas en allant, mais en revenant, qu'il désignait les anciens dans chaque église. Et donc, ce mot, désignait les anciens, ou dans certaines traductions, ils firent nommer des anciens, c'est un mot qui signifie voter en levant la main. Donc, l'idée, c'est que il a évangélisé, les chrétiens étaient ensemble, ils se connaissaient un peu, c'est ça. Après, il revenait. Et puis, Paul désignait, ah tiens, tel homme semble être un bon dirigeant pour votre assemblée. Et on dit voter oui ou on votait non. L'assemblée choisissait leur dirigeant. Mais c'est Paul qui l'a proposé. Mais proposez pas, je veux dire, il n'imposait pas. Il ne mettait pas en place un dictateur. Il proposait et les gens levaient la main pour établir, pour voter leur responsable, pasteur, ancien, etc. Donc ça c'est important pour ce qu'on va lire maintenant, parce que ça se passe un peu différent. Maintenant, Paul était en prison 2 ans, il est sorti de prison, comme on a vu ça la dernière fois, et puis il est dans son dernier voyage. Et ça semblerait que Paul ne compte pas revenir. Il est allé à Crète pour évangéliser, et l'objectif que Paul a toujours dans l'esprit, c'est d'aller en Espagne. On ne sait pas. La Bible ne dit pas si Paul est arrivé en Espagne. Ce que nous savons, c'est que 3 ans après, Tite, il est mort. Il a été exécuté. Okay? Donc, ce n'était pas prévu pour Paul de revenir. Et donc, c'est pour cela, en Tite, il laisse Tite sur l'île pour que Tite s'occupe de cette question d'organiser les assemblées dans chaque ville. Donc, je vous ai dit la dernière fois, il y avait jusqu'à 14 villes sur l'île. Il y a peut-être 4 principales. Et parmi les villes, il y avait peut-être 2 synagogues. Alors, donc, les Crétois, comme nous, ils avaient leur culture, leurs habitudes, ils avaient leur fierté. Alors, un certain nombre d'entre eux, ceux qui étaient sur la ville, venaient de croire en Jésus-Christ. Et ces nouveaux croyants, selon la pratique du Nouveau Testament, ils ont certainement manifesté leur croyance par le baptême. Peut-être, on ne sait pas, mais puisque c'est une île, peut-être ils étaient baptisés dans le Méditerranée, je ne sais pas. Mais dans cette prédication, pendant qu'il était là, Paul avait prêché l'évangile, le salut, il a posé des fondements bibliques, certainement des doctrines essentielles, parce qu'il n'est pas resté longtemps, ils ont parcouru plusieurs villes. Et donc, la plupart des gens qui se sont convertis à Jésus étaient des gens d'origine païenne, et un certain nombre étaient probablement aussi d'origine juive. Mais, comme dit le texte, Paul était pressé pour partir, il voulait aller ailleurs, et il comptait que Tite allait le rejoindre à Nicopolis avant la fin de l'hiver. Donc, il ne pouvait pas faire comme il avait fait dans les autres voyages missionnaires pour revenir ici. Donc, au lieu d'abandonner ses nouveaux convertis à leurs propres moyens, leurs propres organisations, Paul a laissé Tite. Et donc, Tite devait compléter l'organisation des groupes de chrétiens. Donc, il devait prendre les chrétiens dans cette région et faire une église locale. Et aussi, il fallait, comme il dit, établir dans chacun de ces groupes, dans chacun de ces églises, ces assemblées, il fallait faire établir, ou établir, donc faire voter, un dirigeant. Alors, le fait que Paul a écrit ses instructions à Tite, ça nous donne quelques idées. D'accord? Premièrement, Tite avait besoin d'autorité. Tite était certainement un homme plus jeune, parmi une population étrangère. Lui, l'étranger. Et donc, cette lettre est en quelque sorte sa lettre de recommandation ou son sceau d'autorité. Moi, Paul, je dis à vous d'écouter Tite. Deuxièmement, les nouveaux convertis avaient besoin d'assurance que Tite allait continuer l'œuvre de Paul, que ce n'était pas simplement quelqu'un qui venait d'ailleurs pour prendre tous les chrétiens et les envoyer dans une secte, quelque chose. Okay? Donc, ces deux côtés-là. Et puis, en réalité, le texte de ce livre est le mode d'emploi pour l'organisation des assemblées et la pratique chrétienne, la vie quotidienne pratique chrétienne. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est un livre de base missionnaire. Alors, on voit que Tite devait organiser les croyants en église locale et enseigner chaque groupe, pas les doctrines que nous pensons, la théologie et tout ça, mais il devait enseigner la pratique chrétienne. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Parce qu'il y a une doctrine théologique et il y a une doctrine pratique. Et donc, le livre de Tite focalise sur la doctrine pratique. Ça veut dire que les convertis avaient des choses à changer dans leur vie. Jusqu'alors, ils avaient été de pratique païenne. Et maintenant, ils doivent avoir une pratique chrétienne. Les choses devaient changer dans leur vie. Ils devaient manifester la vie nouvelle en Christ. Donc, je répète, Paul a posé le fondement doctrinal et Tite va approfondir le fondement pratique. Une fois que tout le monde était sur la même page, ah, c'est ça, être chrétien. Hein? Après que tout le monde est sur la même page, alors Tite doit sélectionner parmi les hommes quelqu'un qui peut dire, tiens, que pensez-vous de lui? Il sera peut-être un bon responsable. Alors, par la suite, les gens allaient dire, oui, c'est vrai, on accepte tout. Ah, vous ne savez pas que cet homme-là fait ceci et cela, et on ne peut pas l'accepter comme responsable. Donc, c'était pour ça qu'il fallait avoir les qualifications. Nous voyons, donc, au début de Tite, dit Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, etc. Il y a un ordre d'autorité. Il y a Dieu qui ne change jamais. Dieu a établi Paul apôtre. Et à travers l'apôtre, il a fait inspirer un texte que nous appelons la lettre à Tite. L'autorité passe de Dieu à travers Paul pour l'inspiration du texte que nous avons ici. Et Tite n'a pas écrit cette lettre. Tite devait appliquer cette lettre comme nous aussi devons appliquer cette lettre. Et donc, à la fin, c'est l'Assemblée qui choisit cette responsable. Donc, il y a Dieu, Paul, Tite et le responsable approuvé par vote de l'Assemblée. Les chrétiens dans chaque ville, devait trouver un responsable. Ah ben non, on n'a pas besoin de responsable ici. C'est marqué dans le texte biblique. Il fallait établir un responsable. Le responsable ne pouvait pas être choisi sur la base de sa richesse, ou ses amis, ou le lien familial. Non. Il fallait être choisi sur le principe que Paul avait reçu de Dieu et communiqué à Tite. Donc, pour voir ce texte, je voudrais commencer avec le verset 9. Tite, chapitre 1, verset 9. « Donc nous lisons attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. On commence là aujourd'hui, on commence là la semaine prochaine. Je voudrais simplement focaliser sur le point que on a ce mot attaché. Attaché, c'est un mot qui veut dire embrasser fortement et volontairement. Le pasteur, l'ancien, quelques mots que vous choisissez, doit être attaché de son propre gré à la parole de Dieu. Okay? Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Tout dans notre christianisme, tout dans le christianisme biblique doit revenir à la parole de Dieu. Elle est seule la source de notre foi et de notre pratique chrétienne. On y croit et on agit en conséquence. Il faut connaître la parole, on croit ce que dit la parole et on agit, on met en pratique, on a une vie chrétienne. Malheureusement, aujourd'hui, il y a trop d'églises qui sont gérées par des non-croyants ou des personnes insoumises à la parole de Dieu, ou bien par des gens qui sont gérés par les philosophies, on va dire, passagères du monde. Donc ça, c'est dommage, parce qu'en tant que chrétiens, nous devons être les personnes du livre. La personne qui gère une église chrétienne doit être lui-même croyant. C'est pour ça qu'il dit « attaché à la vraie parole ». Attaché, c'est parce que c'est un croyant. Il doit être volontairement attaché et soumis à la parole de son plein gré. La phrase « telle qu'elle a été enseignée » fait référence à l'enseignement apostolique. La foi chrétienne selon l'enseignement de Jésus et ses apôtres. Ce n'est pas un n'importe quel enseignement. Tout véritable ministère pastoral doit sortir de la parole. L'exhortation, l'encouragement est sur la base de la parole de Dieu. Il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Donc nous voyons en Tite la forme la plus simple d'une sélection pastorale. Choisir le pasteur. Pendant son séjour parmi les convertis, Tite devait recevoir des témoignages concernant les hommes locaux. Puis il devait proposer un homme pour que le groupe le reconnaisse comme responsable. Cet homme devait avoir les qualités, je dis ça, les qualités que nous allons voir tout de suite là, ok? Tite n'imposait pas un dictateur, j'ai déjà dit ça, mais je le répète. Il proposait un frère parmi les frères, et si les gens de l'Église étaient d'accord avec l'homme proposé, ils disaient oui par la main levée. Comme nous avons lu tout à l'heure dans Acte 14, et si les gens n'étaient pas d'accord, ils devaient dire non. Il ne faut pas dire oui. On peut dire oui, mais on ne peut pas dire non. Si, on peut dire non. Et il faut dire non. Si l'homme n'est pas qualifié, eh bien, il faut dire non. Ça, c'est un droit et responsabilité. Alors, un jour, notre assemblée aura, même de temps en temps, besoin de choisir ses responsables. J'ai lu récemment d'une église baptiste aux États-Unis qui date de 200 ans. Avec une église qui date de 200 ans, ils ont dû choisir plusieurs fois leur pasteur. Hein? Et Dieu voulant, notre église aussi va durer dans le temps. Globalement, quand on lit le texte, globalement, l'homme choisi doit avoir trois qualités. Il doit avoir une bonne réputation. Il doit avoir une vie de couple stable. Et il doit avoir des enfants bien élevé. Trois choses. On va voir les détails, mais globalement, on peut les résumer comme ça. Pourquoi? Parce que le responsable ou le dirigeant servira comme modèle à l'Assemblée. Certes, personne n'est parfait. Pourtant, le responsable devait représenter en quelque sorte la vie chrétienne normale. Je n'ai pas dit la vie chrétienne parfaite. Hein? Personne n'arrivera là. Autrement, je prends ma porte. Hein? Parce qu'on est tous imparfaits, on a tous nos difficultés, nos différences. Donc, une vie chrétienne normale. Les autres chrétiens devaient apprendre par son bon exemple. Voici donc ce petit chercher dans les hommes qu'il allait proposer comme responsable d'église. Donc, on est dans le verset 6. Oh, et j'ai pas mis dans mes notes, mais il y a un débat au verset 5. Donc, je vous l'ai dit, hein, et le grec supporte les deux interprétations. Donc, que tu établisses, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. OK? Donc, il est écrit des anciens dans chaque ville. OK? Ça peut être un ancien dans chaque ville, c'est plusieurs anciens, ou ça peut être plusieurs anciens dans chaque ville. Ou ça peut être même, parce que c'est ville, mais certaines villes avaient plusieurs assemblées. Hein? Donc, ça peut être plusieurs anciens dans les villes, dans les églises de la ville. Donc c'est un peu complexe et ça laisse un peu de souplesse pour la compréhension de ce texte. Mais le commandement, l'ordre, c'était là où il y a des chrétiens, il faut les rassembler et il faut au moins un homme. Personnellement, je suis porté plus sur l'idée un, par assemblée. Pourquoi? Parce qu'il dit tout à l'heure, si quelqu'un se trouve qualifié. Alors, si quelqu'un ne se trouve pas qualifié, ça veut dire zéro. Donc, il faut au moins un qui trouve au moins un qualifié. Dans notre vie actuelle, quand les églises deviennent de plus en plus grandes, ben, des fois, il y a beaucoup d'anciens. Hein? Il y a, dans les églises baptistes, il y a souvent le pasteur et les pasteurs assistants et les diacres et plein de monde dans l'assemblée. Okay? Donc, on n'est ni pour ni contre, c'est simplement c'est le fait. Okay? Donc, ça, c'est pour le verset 5, un petit détail que je voulais clarifier ou, ou ne pas clarifier. verset 6. Donc, on va le lire. Si il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Okay? Donc, premièrement, dans ce verset, on a un mot, c'est le mot presbyteros, voilà. Et un peu plus loin, on aura un autre mot, episcopone. Okay? Donc, presbyteros signifie ancien, vieux, seigneur. Okay? Mais ça veut dire une personne, premièrement, qui, en principe, a un, qui est respectée pour son âge, ok? Mais, ça peut être aussi, donc, parce qu'il est âgé, donc respecté pour sa sagesse, ou, dans le sens chrétien, plutôt, respecté pour sa maturité spirituelle. Donc, dans le sens que Tite utilise ceci, ça ne nécessite pas que ça soit quelqu'un de 80 ans, ou de 60 ans, ou de 40 ans. Ce n'est pas l'âge, mais la maturité de la personne qui est en vue. Plus tard, on a le mot episcopon, qui signifie surveillant, manager, veilleur, un peu comme un gardien dans le sens de veilleur de nuit. Okay, donc, on utilise ici ces deux mots, on utilise ailleurs d'autres mots pour parler de la même personne et des fonctions ou des responsabilités différentes qu'il aurait. S'il se trouve quelque homme irréprochable, donc ce mot irréprochable veut dire sans accusation, sans reproche. Une personne dont on n'a rien contre cet homme. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Donc, pas un homme polygame, pas un homme divorcé, pas un homme chasseur de femmes, pas un homme visionneur de pornographie, etc. Ce verset n'est pas écrit dans le sens d'exclure les célibataires, ni les veufs, du ministère chrétien. Ce n'est pas l'objectif. Ce verset parle de leur caractère moral, le caractère moral des responsables. Certains prétendent qu'un homme divorcé, même plusieurs fois, peut être pasteur, car il n'a eu qu'une seule femme à la fois. Eh bien non, ça ne marche pas. Hein? Parce que là, vous parlez d'un homme qui a des problèmes de caractère. Okay? Donc, il n'est pas qualifié, il n'est pas un bon exemple. Tiens, je veux que tous les frères et sœurs soient divorcés et remariés à plusieurs fois. C'est le modèle qu'il donne par sa vie. Non, ce n'est pas acceptable. Ayant des enfants fidèles, donc fidèles dans le sens peut-être converti, c'est pas obligé que ça soit croyant, mais je pense ici c'est plutôt dans le sens de responsable, les enfants responsables, les enfants sérieux, les enfants bien élevés. Ok, donc rappelez-vous, donc Paul vient de passer par cette ville et boum, évangélisation massive, il est parti. Et donc les gens sont convertis depuis 3 semaines. Alors il n'y a pas beaucoup de monde qui vont avoir toute la famille qui s'est convertie. Peut-être oui, parce qu'on a vu ça dans le livre des Actes. Okay? Mais c'est en parlant de la caractère du responsable qu'on va voir ses enfants. Alors l'enfant converti peut être de mauvaise caractère. Hein? Ça, c'est pas l'assurance que l'enfant soit de bon caractère. Donc, c'est dans le sens que les enfants du pasteur vont être les enfants corrects, bien élevés. Qu'ils ne soient ni accusés, donc ce mot accusé, c'est sans accusation en justice ou en critique publique. Hein? Les gens dans la rue n'ont pas les accusations contre les enfants du pasteur. Ni de débauche, ni rebelle. Donc le mot débauche, c'est le mot pour dire désordre ou gaspillage. C'est l'histoire du fils prodigue qui part et il dissipe tout l'héritage que son père lui avait donné. C'est ça l'idée ici. Il gaspille tout. Donc si les enfants sont gaspilleux, si je peux dire ce mot-là, ils sont souvent dans le gaspillage, eh bien, ça veut dire que le papa n'a pas appris à ses enfants comment vivre correctement. OK? Et ni rebelle, donc rebelle, c'est insoumis ou insubordonné. Ils ne sont, sont pas sous autorité. OK? Donc, on va voir que les enfants soient fidèles et non pas même être accusé de débauche ou d'être rebelle. Car, et donc au verset 7, je vais changer l'ordre. Donc on va lire le verset. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Donc je vais parler en premier de la seconde phrase. Comme économe de Dieu. Le TOB traduit la phrase en sa qualité d'intendant de Dieu. Alors, c'est pas que l'homme a pris la place de Dieu. Hein? Il n'est pas un prêtre. Il n'est pas une autorité en soi. Il a une bonne réputation. Il a une bonne vie de couple. Il a des enfants bien élevés. Il est respectable. Eh bien, c'est pour cela que l'Assemblée a voté. Mais s'il n'est plus comme ça, s'il a une affaire ou je ne sais pas quoi, si ses enfants, donc je ne parle pas des enfants adultes, mais si ses enfants mineurs commencent à se rebeller et tout ça, eh bien, il va perdre sa qualité Parce que ce n'est pas lui qui est le point de référence en soi, c'est les qualifications. Et l'autorité est dans l'assemblée qui ont voté. Et donc, il peut l'enlever. Hein? Et des fois, malheureusement, il faut le faire. Jésus a dit à Pierre, il a dit, nourris mes brebis. Et je souligne, mes brebis. C'est les brebis de Jésus. Ce n'est pas les brebis de Pierre, ni de Paul, ni de Billy. Les brebis sont les brebis de Jésus. Dans Hébreux chapitre 13 et verset 17, nous lisons que les conducteurs veillent sur les âmes et rendront compte à Dieu pour le travail. OK? Donc, c'est une responsabilité que l'Assemblée donne à cet homme ou à ces hommes. Ainsi, comme responsable de l'Église, il faut que l'évêque, et ça c'est le mot épiscopon, donc il veut dire ancien, etc. Excusez-moi, ça veut dire, je vais trouver ça dans mes notes. Épiscopon, qu'est-ce que j'ai écrit avec ce mot-là? Je ne le retrouve pas. C'est le mot responsable. Donc, il faut que le responsable soit irréprochable. Donc, c'est le même mot qu'on a utilisé tout à l'heure. Il revient sur ce qu'on va dire par le mot irréprochable. Il va parler de sa famille, et puis il va parler de son caractère et de ses habitudes de vie. Donc, ici, en titre, ce sont des qualifications pour une église en formation. Les gens viennent se convertir. Il n'y a pas d'histoire. Je veux dire, il n'y a pas d'héritage. Tandis qu'en Timothée, 1 Timothée chapitre 3, il donne aussi des qualifications pour les pasteurs, etc. Mais, c'est bien plus détaillé. Plus de qualifications. Plus d'informations. Parce que c'est pour une église mature, qui a l'histoire, qui a l'héritage derrière. Tout chrétien doit soumettre ses pensées à la parole de Dieu. Donc, je veux dire que les qualifications sont des qualifications données par Dieu. Si je ne les aime pas, ben tant pis pour moi, parce que Dieu ne va pas refaire ses qualifications d'après ce que moi je pense. C'est moi qui dois soumettre mes pensées à la parole de Dieu. Et pour dire, vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours ignorer ce que Dieu a dit. Oh, Dieu a dit ça, il dit ne pas manger de fruits, de l'arbre là. Je le fais quand même. Ah, si on a un manque de respect pour ce que Dieu nous dit directement à faire, eh bien, ça va avoir des conséquences néfastes. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre de côté des qualifications. Par exemple, vous ne pouvez pas choisir, simplement parce qu'il a une bonne personnalité ou éloquent ou quelque chose, vous ne pouvez pas choisir pour pasteur un homme polygame ou divorcé. Ah, mais il est le plus riche dans la communauté, on va faire qu'il soit le pasteur. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas choisir un homme violent ou râleur ou calomniateur. Qui parle contre les autres gens comme ça. Vous ne pouvez pas choisir une femme. C'est la mode. Mais c'est selon la philosophie du monde. Vous ne pouvez pas choisir un homme égoïste ou de mauvaise réputation. Oui, mais il est très charismatique. Tout le monde vient à cette église parce qu'il il parle très bien, etc. Eh bien, s'il n'a pas une bonne réputation, il n'est pas qualifié. Vous ne pourrez pas choisir un jeune, etc. Dans les qualifications, vous ne lisez pas, il faut qu'il soit éloquent. Éloquent. c'est pas là. Et souvent, c'est ça la première chose qu'on va chercher. Mais est-ce qu'il parle bien? Et c'est bien s'il parle bien. Hein? Mais c'est pas une qualification. Il faut qu'il puisse, on va lire en Timothée plus tard, il puisse apprendre aux autres, il puisse enseigner. Mais sa façon d'enseigner, c'est peut-être un peu bancal, mais au moins qu'il arrive. Voilà, au négatif, il y a plusieurs choses. Premièrement, il dit au négatif. Qu'il ne soit ni arrogant. Ok, donc il y a la liste, je vais prendre les mots. Ni arrogant, donc qu'il ne doit pas avoir une bonne opinion de lui-même. Arrogant. Il ne doit pas être suffisant en lui-même. Ah, je peux tout faire, je n'ai pas besoin des autres membres de l'Église. La tête, ça suffit. Ou la bouche, ça suffit. Non, il faut tous les chrétiens dans l'Église. Ok? Une personne qui cherche son propre plaisir, qui est dominée par ses propres intérêts, et donc est inconsidérée envers les autres. Ça, c'est le genre de personne que vous ne voulez pas comme votre pasteur. Ni colérique. Donc là, qui se fâche rapidement, et donc vous voyez, c'est une bagarreur. Il aime bagarrer. Il y a plein de pasteurs comme ça. Hein? Attention, là. Ils devraient relire le texte pour leur qualification. Ni adonné au vin. Donc, il n'aime pas, c'est pas qui. Je recommence. Ça veut dire, ni aimant le vin, l'alcool, parce qu'il croit par la suite, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il est bouillant et violent. Et le mot après, ni violent. Donc là, c'est donc le mot ni adonné au vin. Des fois, donc le mot le vin est utilisé pour violence. Mais maintenant, on a un autre mot, violent, qui veut dire batailleur, non paisible, disputeur, querelleur, qui frappe. Vous voulez un pasteur qui frappe? Non, merci. Ni porter à un gain honteux. Donc là, c'est l'idée d'être avide de gains déshonnêtes. Il va faire tout ce qu'il peut pour gagner l'argent. Avare, qui convoite l'argent par tous les moyens. Il est cupide. Oh mais non, ça c'est... Jamais un pasteur sera comme ça. Malheureusement. N'est-ce pas? Alors, je vais vous poser une question. Quand est-ce qu'on doit se satisfaire de ses richesses? C'est une question. Vous n'êtes pas obligé de vraiment répondre, mais vous pouvez. Quand on a 50 000 euros? Quand on a 10 millions d'euros? Quand on a 10 milliards d'euros? 100 milliards d'euros? À quel moment on dit, ah, je suis satisfait. Je vous dis que ces gens qui ont 100 milliards d'euros aujourd'hui ne sont pas satisfaits de 100 milliards d'euros. Hein? Ils veulent toujours plus. Et malheureusement, parmi les pasteurs, il y en a qui sont avides de gain. Ça, c'est triste. Parce que il dit ici, s'il est avide de gain, eh bien, il n'est pas qualifié d'être pasteur. Certainement, quand Dieu dit aux chrétiens d'être satisfaits et contents, il dit ça aussi aux pasteurs. Aux pasteurs en premier, comme donner le modèle, je suis satisfait et content, et nous sommes satisfaits et contents. Je ne dis pas qu'on ne veut pas mettre de l'argent de côté, je n'ai pas dit ça, mais à quel moment devient-on satisfait? Ben, on est toujours satisfait parce que Dieu permet. Mais de devoir remplir la caisse à l'extrême, eh bien, ça montre qu'il y a un problème. OK? Donc, ça, c'était négatif. Il y a aussi le positif. Au positif, donc, verset 8. Mais, qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants. Okay? Mais qu'ils soient hospitaliers. Ça, c'est un mot intéressant parce que ça veut dire qu'il aime les étrangers. Un pasteur doit aimer les étrangers. Les Juifs étaient étrangers en Égypte. Donc Dieu est toujours sensible dans ce domaine-là. Mais ça peut dire aussi simplement quelqu'un étranger à votre maison, hein, de recevoir les gens chez vous. Okay? Donc ce mot veut dire qui aime l'étranger. Okay? Aimer des gens de bien. Alors le mot gens n'est pas dans le grec. Okay? Donc c'est qui aime ce qui est bien, que ce soit les personnes ou les activités. On est un ami de ce qui est bien, et non pas un ami de ce qui est mal, méchant ou troublant, etc. Modéré. Modéré, c'est avoir le bon sens. Un contrôle de soi, être pondéré, réfléchi, réservé. Ça, c'est le caractère de modéré. Juste. Donc, juste, c'est un mot qui veut dire correct, innocent, pieux, dans le sens religieux, qui est correct ou droit vis-à-vis de ses devoirs. Il a des devoirs et il est rempli. Okay, c'est ça, ce mot juste ici. Et après, le mot saint. Donc, on a encore le mot pieux, mais dans un sens différent. Pieux, le mot saint veut dire pieux, juste, qui aime les choses de Dieu, par exemple, la grâce et la miséricorde. Donc, peut-être on pourrait dire que juste est plus pieux ou saint dans l'application, et saint est plutôt dans le parti intérieur, hein, c'est l'attitude de vie. Et puis on a le mot tempérant qui veut dire se maîtrise, discipliné. Donc c'est un homme qui applique, d'accord? Il applique et il fait bon usage de ce que Dieu lui donne. Donc en principe c'est l'autorité qui va lui être donné pour l'Église. Il va gérer l'Église. Et donc, il va appliquer cette autorité. Mais il va l'appliquer d'une bonne manière. Alors, je vais mettre un bémol sur tout ça pour dire que même si un homme commence avec des qualités respectables, il pourrait, malheureusement, perdre ses qualités et donc perdre sa position de pasteur. Et je veux dire, devrait perdre sa qualité, position de pasteur. Et c'est pour cela que Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 4:6, « Veille sur toi-même. » Ça ne suffit pas de veiller sur les âmes. Il faut veiller sur soi-même aussi. Au Texas, il y a 93 ans, il y avait dans une église un pasteur bien connu, un pasteur charisma et tout ça. Eh bien, ce pasteur gardait dans son bureau, dans le tiroir, un pistolet. Un jour, dans son bureau, à l'église, il a tué un homme sans arme avec son pistolet. Un tel homme devrait-il rester pasteur? Non. Il n'était plus qualifié sur plusieurs points, à commencer par la violence. Pourtant, l'Église l'a gardé. Alors, quand l'Église le garde, qu'est-ce que ça dit aux jeunes de l'Église? Dans le tiroir, un pistolet. Mais je vous dis que dans mes voyages, je suis allé, je ne sais pas si je devrais dire le nom de la ville, donc peut-être pas, je ne dirai pas, mais j'ai rencontré un jeune pasteur qui, à l'instar de ce pasteur assassin, avait derrière son bureau, sur le mur, un pistolet chargé. Et il se justifiait sur la base de cet homme-là. Quelle honte. C'est grave. Donc le passage que nous venons de voir parle des qualifications des responsables dans les églises, je veux dire les églises missionnaires, les églises qui sont en formation. On n'a pas, regarde notre église, on n'a pas beaucoup, beaucoup de monde. Hein? Dieu voulant, on voit plus de monde, n'est-ce pas? Mais hein, on n'a pas de grandes quantités de monde. Eh bien, le texte parle des qualifications de ceux qui vont être les responsables dans cette église ou dans d'autres églises missionnaires. Ces responsables seront les modèles pour les chrétiens dans cette église. Dieu désire que tous les chrétiens soient des personnes respectables. Ah, oh, mais j'ai péché, je suis plus qualifié pour être pasteur. Oui, mais on peut être respectable. On peut avoir une bonne réputation. Peut-être pas dans un coin ou quelque chose, mais dans l'avenir. Vous imaginez, Paul qui arrive, Tite est là, donc on a dans cette église, disons, plusieurs polygames convertis. OK? Les païens étaient souvent polygames, plusieurs femmes. OK? Eh bien, que faire? Ben, ils doivent apprendre leurs enfants. Quand j'étais païen, je me suis marié avec X nombre de femmes. Mais maintenant que je suis chrétien, je n'aurais pas fait ce choix-là. Et toi, tu vas prendre une seule femme. Il va prendre une position que son paganisme n'était pas correct, mais que à l'avenir, le futur, c'est comme on a lu ici dans le livre de Tite. Donc vous ne serez peut-être jamais pasteur, mais vous pouvez être une personne honorable et respectable. Ça c'est sûr. Nous tous. Dans les prochaines semaines, nous allons approfondir le sujet de la vie chrétienne pratique. La vie que Dieu aimerait voir chez tous ses enfants. Amen. Ok, donc j'espère que vous serez là. Merci pour vous qui sont sur Internet d'être là. Et que Dieu vous donne une bonne semaine. Donc, aussi pour nous, donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une bonne semaine, priez les uns pour les autres, et par la suite de la réunion, donc, nous, on va quand même avoir un moment pour les annonces et la prière. Okay?